Ce chiour dédié à l'élévation de l'âme de Myriam Bat Raphaël et Tamar Zichrona Levracha. Nous allons faire un cours à propos de l'égalité entre l'homme et la femme d'après la Torah. Je pense que bien heureux sont les membres du peuple juif qui ont une Torah qui parle justement d'égalité entre l'homme et la femme de façon tout à fait avant-gardiste. Parce que j'imagine que si on regarde au niveau de l'histoire... La femme a très longtemps et dans beaucoup, beaucoup de sociétés, si pas dans toutes les sociétés, a été vraiment mise au second plan et des fois spoliée, et pire que cela. Il se peut aussi d'ailleurs que dans les couples juifs, c'est arrivé, mais en tout cas, couple juif ne signifie pas forcément Torah. Il y a Torah et il y a ce que les gens font. Il faut bien dissocier. Que dit la Torah? La Torah, elle dit tout simplement qu'au début, Dieu a créé Adam, le premier homme. Il était homme-femme, comme dit le verset très clairement. Zachar venekeva bara otam, vaikra shmam Adam. Zachar venekeva, mâle et femelle, bara otam, il les a créés. Donc Dieu les a créés. Vaikra shmam, il les a appelés Adam, Adam. Donc Adam était un homme-femme. C'est une Gemara dans le traité Yeruvin. Là-bas, la Gemara nous dit qu'ils étaient doux partsoufis. Il avait deux visages. Donc, collé dans le dos, un côté homme, un côté femme. L'entente parfaite, égalité parfaite, bien sûr, on ne peut pas imaginer qu'il était un monstre, d'accord. Il tapait sa femme derrière, elle le tapait. Non, je ne pense pas, il y avait une unité parfaite, comme la main droite ne peut pas frapper la main gauche, la main gauche ne peut pas frapper la main droite, de même, il y avait une unité parfaite, plus que cela. Il y avait effectivement deux parties, la partie mâle, la partie femelle. On va expliquer quelles sont ces parties-là, comme ça on arrive à comprendre mieux quelle est en fait la relation qu'il y a entre l'homme et la femme, ça nous indiquera des choses très 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 belles et très profondes. Le verset dit, Vayomer Elohim, Dieu a dit, Lotov heyot Adam levado, ce n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est-à-dire un, c'est-à-dire uni homme-femme, il n'est pas seul, il y a sa femme avec lui, d'accord? Mais ce n'est pas bien qu'il soit un homme-femme. Je vais mettre une aide en face de lui. C'est-à-dire que sa femme, ou l'homme, d'accord, on coupe l'homme en deux, zoup, il y a une partie qui reste masculine avec en face la partie féminine. Pourquoi Dieu fait cela et comment il fait cela? Quelles sont les parties qu'il prennent? Alors, il y en a qui racontent la côte. C'est vrai qu'il y a des midrashim qui disent la côte, mais la mystique juive va dire tout à fait autrement. Elle va dire tsela. Tsela, c'est le mot qu'on peut traduire par côte, mais le mot tsela réapparaît très souvent aussi, et comme ça explique Rashi d'ailleurs, tsela signifie le côté. On a vu dernièrement dans la paracha, tsela hamishkan, le côté du sanctuaire. Il n'y avait pas de côte au sanctuaire, il y avait des côtés, d'accord? La côte, comme en français, le mot côte et le mot côté sont des mots qui se ressemblent, parce que la côte, elle est sur le côté, d'accord? C'est le côté de la poitrine. Mais en fait, Chazal nous dit, il y en a qui disent la côte, mais il y en a qui disent c'était le côté. Quel côté? Quel côté? Et c'est Aray Seratov, sous-entendu, l'homme, t'es un macho, toi. Ah, tu veux dire Seratov, la femme, et Yetserara? Non, non, pas du tout. Alors, quels sont les côtés? Quels sont les côés? Alors je parle de ma touche un peu profonde, j'espère que vous me suivez, c'est un peu au niveau du calcul, il faut essayer de bien suivre, d'accord? Adam, le premier homme, est créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie beaucoup de choses, mais entre autres, le nom de Dieu peut s'écrire de différentes façons. Bon, on l'écrit Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei. Maintenant, la façon d'écrire Yud, et puis Hei, et puis Vav, et puis Hei, c'est un nom qu'il ne faut pas prononcer dessus, il faut dire et puis entre chaque lettre, on peut le développer. La mystique juive va développer ce nom. Elle va dire Yud. Comment on écrit la lettre Yud? Il y a la partie extérieure, c'est le Yud. Et aussi l'intérieur. C'est en fait, quand je dis Yud, je dis que si je traduis ça en français, je dis Y-O-D-Yod, d'accord? Ou Y-O-U-D, Yud. D'accord? La partie voyante, la partie extérieure, c'est le Y. La partie qui est cachée, que quand on écrit, on ne la voit pas, on l'entend quand on prononce la lettre Yud, d'accord? C'est O-U-D ou O-D, d'accord? Quand je dis un mot qui a un Yud, je dirais que le Y, je ne dirais pas le O-D, Le OD, il est caché, mais il est présent parce que la lettre, elle a un nom, contrairement au français où les lettres n'ont pas de nom. En français, les lettres sont l'expression du son A, B, C, D. C'est l'expression du son A, B, C, D. C'est pas de A, on dit en hébreu. On dit Aleph, B, Bet, Gé, Guimel, D, Dalet. C'est pas pour rien. Il y a un sens profond aux lettres. La lettre, chaque lettre en hébreu aura donc un nom. Le nom va exprimer aussi l'intérieur de la lettre. Tu as l'extérieur, celui qui apparaît lorsqu'on lit. La lettre Yud, c'est comme un Y en hébreu, d'accord ? Par exemple, Israël, d'accord ? Il ne faut pas dire Israël, comme on dit en français, mais c'est en hébreu, c'est Yisra avec un Yud. Yisraël, c'est avec un Y qu'on devrait écrire normalement. Yisraël. Alors, le OD du Yud, du Yod, d'accord ? On ne le voit pas. On ne voit que le Y. Quand on écrit que la lettre Yud. Mais quand on prononce, ou quand on veut développer la lettre, alors on va écrire Yud, Vav, Daled. Y-O-D. Maintenant, si... Le nom de Dieu maintenant, je peux aussi le développer. Yud, je vais l'écrire, Yud Vav Daled. Hey, une des façons d'écrire la lettre Hey, il y a trois façons. Hey Yud, Hey, Hey Hey, Hey, ou Hey Aleph, Hey. Dans le cas qui m'occupe maintenant pour la création du premier homme, l'homme a été créé avec, à l'image du nom qu'on appelle remplissage de Aleph. Ça veut dire que je vais écrire le Hey avec un Aleph. Hey Aleph, Hey. Vav, je vais écrire Vav, Aleph, Vav. Vous me suivez? Et Hé, le dernier Hé, Hé, Aleph. Donc le nom de Dieu maintenant, il est quoi? Faut le dire toujours. Et puis, Yud, Vav, Dalet, c'est le Yud. Après, Hé, Aleph. Après, Vav, Aleph, Vav. Après, Hé, Aleph. C'est le développement, on va dire, intérieur et extérieur des lettres Yud, et puis Hé, et puis Vav, et puis Hé. Ok, on prend l'heure numérique maintenant. De ce nom-là, Yud, Vav, Dalet, et puis Hey Aleph, et puis Vav, Aleph, Vav, et puis Hey Aleph, ça vaut 45. 45, valeur numérique du mot Adam, le premier homme. En cela, on dit que le premier homme est à l'image de Dieu. C'est une des explications. Maintenant, quand Dieu va faire cette scission entre le côté féminin et le côté masculin, comment il va la faire? Il va prendre le côté intérieur. La femme... Chava, Ève, c'est en fait le côté intérieur de Adam. Comment on voit ça? Ça marche très bien. Alors maintenant, il faut que vous suivez bien aussi au niveau numérique. D'accord? Prenons l'intérieur des lettres. C'est quoi? Yud, on avait, c'est quoi? C'est trois lettres. Yud, Vav, Daled. En français, Y, O, D. C'est quoi l'extérieur? Le Y, c'est quoi l'intérieur? Le O, D. En hébreu, Vav, Daled. Combien ça vaut Vav, Daled? Ça vaut Vav, 6. Daled, ça vaut 4, ça fait 10. Après, He. He, c'est He, Aleph. L'extérieur, c'est He. L'intérieur, c'est Aleph. En français, ce serait H, E accent aigu, d'accord? Hé. Le H, c'est l'extérieur, le Hé qu'on voit. L'intérieur qu'on voit pas, c'est le E accent aigu. L'accent aigu, c'est Aleph. Ça vaut 1. Ça nous fait combien? 11. Après, Vav. Vav, on écrit en français V-A-V. L'extérieur, c'est le V. Le A-V, c'est en hébreu Aleph, Vav. Aleph, ça vaut 1. Vav, ça vaut 6. Ça nous fait 7. 11 et 7, ça nous fait 18. Reste le dernier He, H, E accent aigu. Qu'est-ce qu'on voit? L'intérieur, c'est le E accent aigu. C'est donc de nouveau Aleph, ça vaut 1. Ça nous fait en tout combien? 19. 19 valeurs numériques du mot Chava, Ève. Donc Dieu a appelé l'intérieur, il a sorti l'intérieur du premier homme et a créé Ève. Donc qui est plus grand que l'autre? Est-ce qu'il y a une inégalité? Non. C'est à la base, c'est le même être, sa moitié, d'accord, comme on dit en français, très joli. Mais c'est pas moitié comme ça, c'est notre moitié, intérieur, extérieur. Et c'est pour cela que l'homme et la femme sont différents. L'homme, il est extérieur, il a une intelligence qu'on appelle analytique, d'accord, synthétique plutôt, synthétique. Rationnelle, synthétique, tac, tac, la femme aussi. Mais la femme, elle a, c'est marqué que la femme a plus de bina que l'homme. Bina, c'est l'intelligence intuitive. Elle a un sens que l'homme n'a pas. Des fois, l'homme, il a des projets fantastiques, mais il est complètement idiot. Sa femme lui dit, t'oublies ce détail-là. Elle sent les choses intérieures. Ça veut dire que la femme, elle sent les invités beaucoup plus, beaucoup mieux que son mari. Pourquoi? Elle a une intuition. T'as les femmes plus intuitives, des femmes moins intuitives. T'as des hommes plus intuitifs et moins intuitifs. Mais en général, donc, si on parle d'identité masculine et féminine, elles sont différentes. Aujourd'hui, c'est bien connu. Pour se marier, pour qu'un couple tienne, il faut faire des cours de Schlumbeit. Il faut enseigner. si possible avant le mariage, il y en a qui le font aussi après le mariage, mais si possible avant le mariage, enseigner à l'homme, c'est quoi une femme ? Enseigner à la femme, c'est quoi un homme ? Parce qu'ils sont tellement différents. Il y a un bouquin écrit par des non-juifs, mais même des rabbins qui le recommandent, ça, voilà, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. Ça veut tout dire. On est différents. Tu vois, un gosse à l'âge de 3 ans, ben, il joue au pistolet. S'il joue à la poupée, il faut avoir un psy. C'est pas normal, d'accord ? Une fille qui joue au pistolet à 3 ans, c'est bizarre aussi. Il faut aussi avoir un psy. Elle joue à la poupée. Ils sont différents. Est-ce qu'il y en a un qui est plus meilleur que l'autre ? Jamais de la vie. Ils sont différents. Chazal vont nous dire, Chazal c'est nos sages de mémoire bénie, vont dire que la femme a plus de bina que l'homme, donc cette intelligence intuitive. L'homme a plus de dat. Dat, c'est la connaissance synthétique, plus rationnelle. Pourquoi Dieu fait cela ? Pourquoi Dieu sépare l'homme et la femme ? Ben, c'était très bien. Homme uni intérieur dans l'intérieur de son extérieur. Ça allait très très bien. Pourquoi faire cette séparation ? Tu vois bien qu'il faut faire maintenant des cours de Shambhite pour que ça tienne le coup. Et puis, vas-y que ça tienne, après les divorces, et vas-y trouver enfin le bon mazal, le chidour. C'est casse-pied. Ça aurait été bien mieux que depuis... Quand t'es né homme-femme, voilà, jusqu'à 120 ans, on est content, on a trouvé, c'est certain que c'est notre mazal, on ne peut pas se poser des questions, pas de mariage, pas de divorce, tout va très bien, dans le meilleur des mondes.
Libre-arbitre,
on a pu l'exercer autrement. La question est beaucoup... En fait, la réponse se trouve dans le verset. Comment Dieu dit ? Dieu dit, « Lo tov, heyot Adam, levado. » Ce n'est pas bon, tov, que l'homme soit seul. Ça veut dire une unité. Il faut le séparer en deux et mettre là, sa moitié en face. Les deux, l'un en face de l'autre. Pourquoi ? Bah, pour arriver à tov, à être bien, à être bon. Nous sommes constitués de deux parties. Enfin, même de trois parties. Nefesh, enfin la partie la plus basse, Ruach, Neshama. Nefesh, elle est extrêmement égoïste. C'est en fait la partie, c'est une partie spirituelle, mais qui fait que le corps vive. De même que je peux avoir le corps d'un animal mort ou vivant. Quelle est la différence entre un corps d'animal mort ou vivant ? Le mort n'a pas de nefesh, le vivant, il a un nefesh. Donc moi aussi, j'ai une âme humaine, d'accord ? Mais le nefesh, c'est la partie la plus basse qui est responsable, en fait, du fonctionnement animal du corps. D'où tous les instincts, qui sont utiles, parce que sans instinct, le corps se laisserait mourir, mais dans une certaine proportion. On doit être égoïste, un peu quand même. Il y a instinct de conservation, reproduction, guerre, d'accord, agressivité, combativité, nutrition, tous les sentiments, même aussi les sentiments, on va dire, la concurrence, la jalousie, la convoitise, etc. Tout cela provient du nefesh. La partie la plus haute, c'est la neshama. Complètement divine, à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, la Neshama enverra des messages que le corps, que le Nefesh ne peut jamais envoyer. Du genre, quel est le but de ma vie ? Quel est le sens profond de notre existence sur Terre ? Le désir véritable de faire du bien à l'autre pour faire du bien, de façon altruiste et même anonyme. Aimer pour aimer, donner pour donner, ça provient uniquement de la Neshama. Ces deux parties, Nefesh et Neshama, nous sont données. Dieu, lors de la naissance, nous donne un certain Nefesh avec un certain trait de caractère, et aussi une certaine Neshama. Chacun aura une Neshama qui correspond à son Nefesh. La Neshama, elle sert à corriger et à diriger le Nefesh. C'est comme si on prenait un exemple, on prend un cheval. D'accord. Le nefesh, c'est le cheval. Bon, le cheval, à quoi il pense, le cheval ? Ben, à manger, à faire des courses de chevaux, à se reproduire, et voilà, d'accord ? Un cheval. La neshama, c'est le palon indicateur qui veut montrer, c'est par là que ça se passe. La bonne direction. Nous, l'être humain, il a reçu un cheval, mais il n'est pas le cheval. Chose que peu de gens savent, d'accord ? Très, très souvent, les personnes se prennent pour des chevaux, d'accord ? Même des fois, ils yannissent comme des chevaux. Bon. La Neshama, ça va être le panneau indicateur. La bonne direction. Voici ce qui est juste de faire. La Neshama fonctionne toujours avec les arguments faux, vrai. Où est la vérité ? Le Nefesh ne fonctionne pas du tout par faux, vrai. Il dit, j'ai envie, j'ai pas envie. C'est comme ça que fonctionne le Nefesh. Il y a toujours des débats entre les deux. Qui va décider ? Ben, c'est nous. Nous, c'est le Rouar. Le Rouar, c'est la partie intermédiaire entre les deux qui reçoit d'une part l'éclairage de la Neshama, mais aussi d'une part l'éclairage, enfin on va dire la pulsion du Nefesh. Et à lui de juger. Qu'est-ce qu'il fait? Le but, évidemment, c'est de suivre la Neshama. Ce n'est pas l'indicateur. Nous, on est le cavalier. Dans le cheval, eh ben, on lui dit, monte sur la montagne. Et, oh, t'as vu un peu la prairie ici? Il y a une course de chevaux, il y a des juments, c'est vachement sympa, je veux aller là-bas faire une course de chevaux, d'accord? Le cavalier lui dit, non mon cher, là, oh, c'est très dur. D'autant plus que le cavalier se réveille beaucoup plus tard dans la vie. On dit que ça commence vers l'âge de 13 ans pour les hommes, 12 ans pour les femmes, ouais, ils sont plus précoces que les hommes. Bon, l'année commence lentement à se réveiller. Le cavalier commence à ouvrir un œil. Jusqu'à un certain jour d'adolescence ou de maturité, des fois ça n'arrive jamais, le cheval, il fait ce qu'il veut. Je fais ce que j'ai envie dans la vie. Personne ne me dira quoi faire. Ah, t'as une conscience qui te dit que c'est pas juste. Beaucoup de gens ont même atrophié leur conscience. Donc, vu que dès le début de la vie, le cheval est le seul maître à bord, le jour où le cavalier commence à ouvrir un œil, le cheval n'est pas d'accord. C'est l'âge de révolte, c'est très difficile. À nous d'être des bons cavaliers, à maîtriser le cheval pour le faire aller dans la bonne direction. Le meilleur moyen d'éduquer l'être humain à suivre la Neshama, c'est le mariage. Mettre en face de lui son conjoint, qui est différent de lui, et qui a besoin. Chaque personne dans le couple a besoin de son conjoint. Maintenant, pour arriver à une entente, il est nécessaire que je donne à mon conjoint ce dont il a besoin. Il a des besoins sentimentaux, physiques, intellectuels, une panoplie, on est fait de beaucoup de degrés, d'accord? Il faut les satisfaire. Maintenant, vu que pour un homme, une femme, c'est un être qui fonctionne tout à fait différemment que lui, intérieur, plus émotionnel, plus sensible, l'homme, il est carré, ben, ça ne marche pas ensemble. Donc l'homme doit faire des efforts, et la femme, idem. Tout ce que je dis maintenant, c'est dans les deux sens. La femme doit faire des efforts pour donner à l'homme ce dont il a besoin. Je peux donner un exemple tout à fait, on va dire, grotesque, d'accord, mais qui peut... Chacun comprend qu'il est tout à fait déplacé d'offrir à sa femme pour son anniversaire une perceuse Black & Decker. Ça fonctionne. Comme offrir un beau bouquet de roses à son mari pour son anniversaire, c'est bête aussi, d'accord. C'est pas ce qu'il fallait, ou un nouveau rideau, d'accord. T'offriras un nouveau rideau à ta femme pour son anniversaire, ou un nouveau frigidaire, ou un beau bouquet de fleurs, tout cela avec beaucoup de romantisme, et la femme offrira à son mari une perceuse Black & Decker qui sera beaucoup plus pratique. Ça, c'est au niveau grotesque, d'accord? C'est simple. Au niveau beaucoup plus profond, il est clair qu'il y a des attentes, il y a une façon de parler qui nécessitera chez chacun des conjoints de faire des efforts, de dépasser maintenant son égoïsme primaire du nefesh, de commencer à écouter la Neshama. Comment on va faire cela? Ben, comme avec un cheval. Un cheval, quand il ne comprend pas, qu'est-ce qu'on fait? Un coup de cravache, d'accord? Les problèmes dans le couple, la douleur que cela provoque, c'est comme un coup de cravache. Personne n'est heureux d'avoir des problèmes dans le couple. C'est le pire enfer qu'il puisse avoir, c'est des problèmes dans le couple. C'est l'école, maintenant. Si quelqu'un est intelligent, il apprend vite. S'il est bête, et il y en a hélas beaucoup, eh ben, il faut beaucoup de coups de cravache et beaucoup de souffrance. Des moments, il y a des fois où on dit, le cavalier dit, je ne peux pas, terminé. Il y a des divorces aussi, à Dieu ne plaise. Mais le but de l'opération est le suivant. Que l'homme se surpasse, si ça restait à l'état d'être unique. Il se serait satisfait à lui-même, en autarcie, dans sa tour d'ivoire, d'accord, et pas besoin de donner à l'autre. Quelqu'un vient me demander de l'aide, je lui dis, écoute, pourquoi tu viens me voir moi? Va voir l'autre. Il peut donner comme moi. Dieu va créer maintenant une dépendance, en séparant ce corps en deux, que personne ne peut donner à ma femme ce dont elle a besoin, si ce n'est moi. Et personne ne peut me donner ce que ma femme peut me donner, si ce n'est elle. Donc il y a une nécessité que chacun donne à l'autre. Et là, la nécessité donc de travailler, afin que l'homme devienne Tov, Tov, bon, à l'image de Dieu, qu'il écoute sa Neshama. Donc, il n'y a pas ici des questions d'inégalité, il y a des différences. Et le but de l'opération, c'est arriver à une union par nous-mêmes, dans le sein des saints. Tu avais une question? Oui.
Je veux dire, si par exemple, par rapport au problème, les difficultés de discussion avec la femme, si on essaie de faire des efforts, dans le fond, on a raison, on n'a pas tort. On essaie de faire des efforts.
Oui.
On ne trouve pas la manière de dire les choses. On essaie de faire le père. Mais la solution dans ce cas-là, c'est pas de s'écraser, parce qu'on a raison dans ce cas-là.
Alors, quand je dis s'écraser, c'est au moment de la pression, au moment de la bagarre. D'accord ? C'est rien. On s'explique pas quand c'est l'estomac qui s'explique. Ça sert à rien. Surtout quand tu as raison. Vu que tu as raison, la personne en face ne peut pas entendre ça. Donc il va donner raison bête comme quoi tu as tort. Et toi, ça va te mettre hors de toi. Alors que tu as raison, elle dit bêtement que tu as tort. Ça te met encore plus hors de toi. Et voilà, elle t'a bien eu, elle t'a mis hors de toi. Donc tu laisses passer. Quand c'est calme, on peut pas. Très sympathiquement, on parle sympathiquement.
La réplique
Je vois qu'actuellement, nous sommes dans nos émotions, toi et moi. Donc il faut qu'on ne parle pas. Quand ça se calmera, on en parlera intelligemment. Voilà.
Vaut mieux prendre le risque qu'un abcès va y grossir.
Non, l'abcès il va grossir si tu réponds. Ça commence en ping-pong, après en pétanque, en bowling, en artillerie lourde. Ta femme maintenant t'en veut. Parce que, je sais pas, t'étais en retard. T'avais une bonne raison d'être en retard. Mais elle t'en veut quand même. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais tu veux t'expliquer? Tu peux dire, ok, tu dis, écoute, j'ai eu ça et ça et ça et ça. Maintenant, elle dit, je m'en fiche. Quoi, je m'en fiche? Mais j'ai des bonnes raisons. Je m'en fiche, t'es toujours en retard. Qu'est-ce que tu fais? T'as la pression qui monte. C'est pas de ta faute. T'as tout fait pour être à l'heure. T'as la pression qui monte. Mais je t'explique que je suis arrivé à l'heure. Tu comprends que je m'en fiche? T'avais qu'à être à l'heure. Qu'est-ce que tu réponds? Ta pression, elle monte. À quoi ça sert? Écrase-toi. Hein. C'est dur. Ah, là, le travail, mon cher ami. Sois tauve. Bosse. Retiens le cheval. Il a essayé de devenir taureau, là. Il a... un combat entre un échama qui dit ferme là. C'est rien de parler, tu vas envenimer. Et le taureau qu'il faut retenir. Tout le monde a ce travail. La colère, c'est un boulot énorme. Mais la colère ne peut jamais rien résoudre. Surtout que si on parle d'égalité entre l'homme et la femme, c'est quoi le système, l'arme de l'homme? Il va crier. Il va taper sur la table. Dans les bons cas, des fois, il tape autre part, chez mes jumeaux, d'accord? La force. La femme, elle est fine. C'est comme un chien et un chat. Tu prends au niveau musculaire, qui est plus fort? Un chien, rien à voir. Mais mets un combat entre un chien et un chat, qui gagne? Le chat, il est fin. La femme, elle sait jouer sur... Vu qu'elle est fine, elle est intuitive. Elle peut... Ping, d'accord? Mettre hors de toi. L'homme, il est bête. Il sait crier bêtement. Voilà. Il sait faire mal aussi. Il sait faire mal aussi. Mais vu que l'extérieur, c'est grossier, la femme, elle est plus fine. Donc, avec la finesse, on peut rentrer beaucoup plus profondément et faire beaucoup plus de mal. Donc, ça ne sert à rien de se mettre... tout ce que je dis maintenant, c'est côté homme et femme. La colère ne peut résoudre les problèmes. Le but, il est l'union. Et là, je voulais parler de cette chose qui est, à mon avis, très très belle. Dans le Saint-Dessin, il y avait le tabernacle, donc cette sorte de boîte dans laquelle il y avait les tables de la loi et la Torah. Ce tabernacle, il y avait un couvercle. Sur le couvercle, il y avait des chérubins, donc deux sortes d'anges sculptés en or, et qui se regardaient l'un l'autre. Et c'est marqué que la voix de Dieu sortait d'entre les chérubins. C'était dans le Saint des Saints. Chazal ont dévoilé quelle était la nature de ces anges, ces chérubins. Ils étaient un mâle, l'autre femelle. En relation amoureuse l'un vers l'autre, se regardaient avec amour. Et d'entre l'amour, d'entre le regard des deux qui se regardaient avec amour, pour donner à l'autre, sortait la voix de Dieu. Dieu qui est un ne peut se poser que à l'endroit où il y a l'unité. Maintenant, il était où ce tabernacle? Dans le Saint des Saints. Rabbi Akiva, c'était un des plus grands rabbins du judaïsme, a dit si tous les livres sont saints, on a 24 livres du canon biblique. Il y a un livre qui est considéré comme le Saint des Saints. C'est lequel? Shirashrim, le Cantique des Cantiques. Tu lis ça, c'est une histoire d'amour. Mais passionné! Passionné! Saint des Saints! Peu de gens le savent. Dans le Midrash, le temple de Jérusalem est appelé Cheder Amitot, la chambre des lits. L'endroit de l'union entre masculin et féminin. Ça veut dire... Tout le monde physique est à l'image du monde métaphysique. Tous les mondes métaphysiques divins sont constitués de côtés masculin et féminin. Et lorsqu'il y a une union entre les deux, ce qu'on dit avant de faire une mitzvah. L'Hashem Yehoud, je fais cette mitzvah afin de faire l'union entre Yudke et Vavke. En différentes parties divines, cette union provoque le flux de lumière. Comme un homme et une femme qui se marient, ça provoque la naissance d'un enfant. Là aussi, on peut créer des âmes, on peut créer des lumières qui descendent du ciel uniquement par l'union. C'est pour ça que dans le Saint des Saints, le Saint des Saints, c'est l'endroit où le Kohen Gadol, l'homme le plus saint du monde, rentrait dans l'endroit le plus saint du monde, le jour le plus saint de l'année, Yom Kippour. On me dit, c'est quoi le Saint des Saints? On appelle ça la chambre des lits. On y met un chérubin mâle et femelle en train de se regarder avec amour. Et Rabbi Akiva me dit que le Saint des Saints, c'est l'histoire d'amour entre l'homme et la femme. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que lorsqu'on a maintenant les deux parties différentes du même être qui peuvent se rassembler maintenant, s'unir dans un regard l'un vers l'autre, ces chérubins pouvaient aussi tourner la tête. Lorsque la relation entre Dieu et Am Israël n'était pas au beau fixe, alors ils tournaient la tête. Ça veut dire qu'on ne se regarde plus. On peut vivre dans une maison techniquement ensemble. T'as ton rôle, j'ai mon rôle, on s'arrange. Mais il est où l'amour flamboyant? Il est où le regard vers l'autre? Il est où le tov de venir à l'image de Dieu donner? Donc il est clair qu'il n'y a pas ici d'inégalité. Il y a des rôles différents. Il est vrai qu'on appelle l'attribut masculin l'attribut donneur. On va dire émetteur. L'attribut féminin, il est récepteur. Et l'homme ne peut se réaliser que s'il a en face de lui une femme. Et la femme ne peut se réaliser que si elle a en face d'elle un homme. Ils sont nécessaires, vu qu'ils sont du même corps. Impossible de se réaliser si ce n'est ainsi. Pourquoi dans les Berkot HaShachar, les bénédictions du matin, l'homme dit « Shelo Asanisha, je bénis Dieu qui ne m'a pas fait femme ». Et pourquoi la femme, elle dit « Je bénis Dieu qui m'a fait d'après sa volonté ». Est-ce qu'il y a ici une inégalité? Non. L'homme a plus de travail, et comme ça, dans l'histoire de la création, le plus tardif est le plus parfait. On commence par les végétaux, minéral, après végétal, après animal simple, animal plus complexe. L'homme est le dernier créé, c'est la femme. La femme est plus parfaite que l'homme. Donc elle va dire, Dieu m'a créé comme sa volonté. La femme est l'être dans l'univers le plus adéquat à la volonté divine. Elle a été créée presque de façon parfaite. Il lui manque un certain job à faire pour arriver à la perfection. C'est le job qu'elle a à faire sur Terre. Elle a un certain nombre de mitzvot. L'homme qui a été créé avant la femme, et aussi le plus parfait de la création après la femme, il est moins parfait que la femme, et c'est pour ça qu'il aura plus de job à faire dans sa vie pour arriver à une perfection. Quand je dis que la femme, elle est plus intuitive, donc elle a une intelligence intérieure, c'est-à-dire qu'elle s'est assimilée chez elle. L'homme étant extérieur, il a un travail à faire d'assimilation des choses qui sont bonnes, qui sont justes, il doit les assimiler à l'intérieur. Il y a un travail énorme de faire venir les notions de ce que sa tête a compris, c'est la connaissance extérieure, faire l'intérioriser. La femme, de façon naturelle, elle a cela. Elle est plus parfaite. Alors pourquoi l'homme va faire une bénédiction qui préfère être homme que femme? Parce que quelque part, on préfère avoir plus de travail que moins de travail. Mais d'un côté, qu'est-ce qui est préférable? Être plus haut ou être plus bas? Alors, à chacun de décider. La femme dira, je suis content d'être plus haut comme ça, je suis plus parfaite. L'homme va dire, moi je préfère être plus bas. En tout cas, je te remercie de m'avoir fait plus bas, comme ça j'ai un job plus grand à faire. C'est certain que si l'homme réussit à faire son job, alors il aura une amplitude de réalisation de soi plus grande. Mais la femme étant plus parfaite, si elle se réalise aussi dans ce qu'elle a à faire, elle arrive à au même niveau de perfection. Oui. Quand je parle d'émetteur-récepteur, je ne parle pas du tout de tu dois dire et elle doit écouter. C'est pas du tout comme ça, d'accord. Émetteur-récepteur, c'est comme ça que fonctionne le monde. C'est-à-dire, au niveau rien que pour faire des enfants, d'accord. L'homme va émettre, la femme va recevoir, elle va travailler et va créer l'enfant. Au niveau mystique, on appelle ça Chokhma Bina Vadat. Chokhma, c'est l'information. Bina, c'est le travail qu'on fait avec cette information. Dat, c'est le résultat obtenu. Tout fonctionne dans le monde comme ça. Quelqu'un, il a une idée. Maintenant, cette idée, c'est une idée. Maintenant, il doit la travailler, il doit en faire un projet et après le réaliser. La partie idée, c'est la partie qu'on appelle ça l'impulsion masculine. Le travail de mise au point, c'est la partie féminine. Et la réalisation, c'est le fruit des deux. D'accord ? Cette date. Tout fonctionne comme ça dans le monde. C'est la trame du monde. C'est comme ça que fonctionne la création. C'est comme ça qu'est le monde. J'ai dit masculin, féminin. Alors, c'est pas que tout ce que dit la femme doit écouter. D'accord ? C'est pas tout comme ça. Il y a un échange. Il faut qu'il y ait un échange. À égalité. Et là, l'homme n'a pas de galon en plus, comme quoi, tu m'écoutes parce que j'ai raison. Au contraire. D'accord ? Très souvent, au niveau de la bine, on voit que la femme a plus raison que l'homme. Simplement, regarde. Comment sont l'homme et la femme? C'est un exemple très parisien. La mode est parisienne. La mode concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. C'est vrai qu'il y a une mode masculine, mais la femme, elle est dans attirer le regard. Elle est dans le charme. C'est clair que les femmes ne peuvent pas imaginer à quel point un homme a du plaisir à regarder une femme qui est belle. C'est vrai qu'une femme a aussi du plaisir à regarder un homme qui est beau, mais ça n'a rien à voir. Rien à voir. Dans toutes les affiches, d'accord, on mettra des images de femmes. On n'est pas pour cela, mais c'est beaucoup plus fréquent de voir des images de femmes que des images d'hommes. Pourquoi ? Parce que la femme, elle est justement dans susciter le regard de l'homme. Elle est, quelque part, elle reçoit le regard. Vu qu'elle a envie d'être regardée, elle va susciter cela, mais elle est réceptrice. C'est l'homme qui est acteur, la femme qui est réceptrice. Un récepteur, c'est-à-dire que lorsqu'il veut recevoir quelque chose, il va susciter cela. C'est dans une certaine mesure un exemple qui peut montrer dans quelle mesure la femme elle est réceptrice et l'homme il est émetteur. Mais c'est valable à tous les niveaux. Peut-être on va finir avec une dernière chose. Le Gaon de Vilna explique que toute la Torah est résumée dans le récit de la création. Dans la création, on verra qu'il y a des jours, on parle de création du ciel, d'autres de la terre, d'autres les deux à la fois. Le ciel, il est émetteur, la pluie. La terre, elle est réceptrice. Et de l'union des deux va sortir le fruit. Le Gaon de Vilna va dire aussi que tout le récit de la création est résumé dans le premier verset de la Torah. Bereshit bara Elohim, au début Dieu créa le ciel et la terre, ciel et terre. Le Gaon de Vilna va dire aussi que tout le premier verset est résumé dans la première lettre. Bet. Bet, c'est deux. Attends, une partie en haut, une partie en bas dans la lettre bet. Je vous le fais dans votre sens comme ça. Bet, en haut, en bas. D'accord ? Émetteur, récepteur. Et le but, c'est quoi ? Le Gaon de Vilna dit que toute la Torah est résumée dans le point qui est à l'intérieur du bet. L'union entre les deux. C'est ça le saint des saints. Il est possible d'avoir union que s'il y a égalité, que s'il y a respect. Donc c'est clair que la Torah, je pense que la seule Torah au monde qui dit qu'à la base, l'homme et la femme sont le même être. Pas une partie plus basse, pas une partie plus haute, simplement différente. Du même être, donc une égalité, une complémentarité nécessaire. Baruch Adonai, l'homme et la femme.